Chapitre 16. Au milieu de toutes ces intrigues sanglantes, c'est-à-dire le 21 septembre 1640, la reine était accouchée d'un second fils qui avait reçu le nom de duc d'Anjou. Le mois de septembre, consignons le fait en passant, avait eu une singulière influence sur le siècle. Le cardinal était né le 5 septembre 1585. Le roi était né le 27 septembre 1601. La reine était née le 22 septembre 1601. Le dauphin était né le 5 septembre 1638. Enfin, le duc d'Anjou venait de naître le 21 septembre 1640. Ceci dit, en matière de parenthèse, revenons à M. de Richelieu. Après avoir traîné Saint-Marc et Detout derrière lui sur le Rhône, il eut grand-peine à gagner la Loire, car lui-même était horriblement malade. Il avait pris dans la Gaule narbonnaise une de ces fièvres terribles dont mouraient autrefois les consuls romains et dont meurent encore aujourd'hui les habitants d'Arles et d'Aigues-Mortes. De sorte que, ne pouvant aller ni en carrosse ni en voiture, il se faisait porter dans une immense litière qui, trop large pour entrer par la porte des maisons et quelquefois même par celle des villes, forçait d'abattre des pans de murs et de remparts sur son passage. Si le logement préparé pour le cardinal était au premier ou au second étage, on établissait une pente douce pour que le malade n'eût point la secousse des escaliers et l'on entrait par les fenêtres. 12 hommes portaient l'énorme machine et étaient relayés par 12 autres qui suivaient. Une fois qu'on eut gagné la Loire, ce fut plus facile. On choisissait des logis proches du fleuve et l'on n'avait qu'à porter l'illustre malade du fleuve à son logis. Madame d'Aiguillon et toute sa cour le suivaient dans des bateaux à part. C'était comme une petite flotte. Enfin, deux compagnies de cavaliers l'escortaient, longeant l'une la rive droite, l'autre la rive gauche. Quand les eaux étaient basses, on creusait un chemin pour donner de la profondeur au fleuve, et lorsqu'on arriva au canal de Briare, qui était presque tari, on lâcha les écluses. De retour à Paris, cependant, la première pensée du cardinal fut pour une tragicomédie qu'il avait laissée à exécuter au poète Desmarets, son collaborateur ordinaire. Elle s'appelait l'Europe. Elle était en 5 actes avec un prologue. Le cardinal, à son retour, y ajouta une espèce d'épilogue intitulé « La prise de Sedan ou l'antre des monstres ». C'était un manifeste contre la maison d'Espagne. Comme toujours, Richelieu en avait fait le plan et Desmarets les vers. La pièce fut jouée avec une grande pompe sur le théâtre de l'hôtel de Bourgogne. Mais le cardinal ne put y assister. Il avait fait les répétitions et payé les costumes. On reconnut à son absence qu'il devait être bien malade. Au retour du théâtre, Madame d'Aiguillon le trouva avec M. de Mazarin. « Ma nièce, lui dit-il en montrant son futur successeur, « pendant que vous étiez à la comédie, j'instruisais un ministre d'État. » Le cardinal, se sentant plus mal, avait nommé un conseil, mais c'était une dérision. Pour que ce conseil le rendît, lui, Richelieu, plus indispensable encore que s'il ne l'eût point institué, il avait fait M. de Saint-Chaumont ministre d'État. Une anecdote donnera l'idée de la valeur de M. de Saint-Chaumont. Convaincu que la distinction dont il venait d'être l'objet était accordée à son mérite, et rencontrant Gordes, le capitaine des gardes du corps, « Eh, Gordes, lui dit-il, sais-tu l'honneur que le roi me fait ?»« Ma foi, non, lui répondit le capitaine des gardes, mais dites, je le saurai. »« Le roi m'a nommé ministre d'État. »« Bon, comme je vais croire cela, attendez, ha 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 !» Et Gordes entre chez le roi en riant à gorge déployée. Louis XIII ne riait guère. Aussi était-il toujours étonné d'entendre rire les autres. « Pourquoi riez-vous ainsi, monsieur » demanda-t-il. « Oh, une excellente plaisanterie que vient de me faire Saint-Chaumont, sire. »« Quelle plaisanterie ?»« Il va 10 ans qu'il est nommé ministre d'État. Il vous l'a dit ?» « Oui, sire. » Et que lui avez-vous répondu ?« Je lui ai répondu, cherchez un sot qui vous croit, mais ce ne sera pas moi. » Voici son ordonnance, dit le roi. Et il montra à Gordes l'ordonnance qui nommait Saint-Chaumont. Gordes en demeura abasourdi. Le cardinal, si malade qu'il fût, croyait revenir de sa maladie. Il en donnait une preuve dans l'insistance qu'il mettait à poursuivre M. le duc d'Orléans, dont il voulait si bien établir la réputation qu'en cas de mort du roi, on lui enleva la régence pour la donner à la reine. Quant à celle-ci, outre qu'ils étaient un peu rapprochés d'elle, Richelieu espérait la gouverner par le cardinal Mazarin, sa créature. En le lui présentant la première fois, après le traité de Casale, qui commença la fortune de Mazarin, « Madame, lui avait-il dit, vous aimerez bien celui-là, je l'espère. Il ressemble à M. de Buckingham. » Dès ce moment, en effet, la reine parut avoir de l'inclination pour Mazarin. Mais si Richelieu s'était rapproché d'Anne d'Autriche, il n'en était pas ainsi avec le roi. Jamais la haine que Louis XIII portait à son ministre n'avait été plus profonde, et cela grâce surtout à M. de Tréville. On connaît M. de Tréville. Henri-Joseph de Peyre, comte de Troisville, on prononçait Tréville, nous en avons fait un des personnages principaux de notre roman Les Trois Mousquetaires. Le cardinal avait su, par la déposition de M. de Saint-Marc, qu'un jour le roi lui avait dit en montrant M. de Tréville « Cher ami, voici un homme qui, lorsque je voudrai, me défera du cardinal. » Tréville, en effet, commandait les mousquetaires à cheval qui accompagnaient le roi partout, à la chasse, à la promenade et jusqu'au couvent où il visitait Mademoiselle de Lafayette. Le cardinal avait gagné la cuisinière de M. de Tréville pour espionner son maître et peut-être faire pis. Il donnait à cette femme 400 livres par an. Mais il pensa bientôt que la précaution n'était point suffisante et qu'il fallait éloigner l'homme dans lequel le roi avait une si grande confiance. En conséquence, il envoya Chavigny pour inciter le roi à chasser son capitaine des gardes. Chavigny exposa au roi la commission dont il était chargé. « Mais, monsieur, répondit humblement Louis XIII, considérez, je vous prie, que le cardinal est exigeant, que cela me perd de réputation, que Tréville m'a bien servi, qu'il en porte les marques et que c'est un de mes plus fidèles. » « Mais, sire, repartit Chavigny, vous devez considérer aussi que M. le cardinal vous a bien servi, qu'il est fidèle, qu'il est nécessaire à votre état, et que vous ne devez pas le mettre dans un plateau de la balance et M. de Tréville dans l'autre. »« N'importe, dit le roi, M. le cardinal dira ce qu'il voudra, je ne chasserai pas Tréville. » Chavigny revint avec ce refus et raconta au cardinal ce qui venait de se passer. « Comment ? S'écria Richelieu. « Vous n'avez pas insisté plus que cela ?»« Voyant que le roi y tenait si fort, je n'ai point osé, » dit Chavigny. « Retournez, retournez, et dites au roi qu'il faut que M. de Tréville soit chassé. » Et M. de Tréville fut chassé le jour même, c'est-à-dire le 1er décembre. Mais le roi lui fit dire qu'il avait eu la main forcée, qu'il l'aimait toujours, qu'il eût à lui rester fidèle et qu'il lui promettait que son exil ne serait pas long. En effet, dans les derniers jours de novembre, le cardinal était devenu très souffrant. Le 29, ses douleurs s'étaient tellement accrues qu'il avait fallu recourir au médecin. Le 30, son éminence avait été saignée deux fois. Et de cette double saignée, il en était résulté si peu de bien que M. de Brézé, M. de Meilleray et Mme d'Aiguillon avaient cru devoir coucher au palais cardinal. Le lundi 1er décembre, jour du congé de M. de Tréville, le malade se trouva un peu mieux. Mais vers les 3 heures de l'après-midi, la fièvre redoubla et prit d'une effrayante intensité. Toute la nuit, le cardinal cracha du sang, éprouvant des difficultés incroyables à respirer. Bouvard, premier médecin du roi, passa cette nuit au chevet de son éminence, qu'il saigna encore deux fois sans obtenir aucune amélioration. Le mardi matin, il y eut consultation. Vers 2 heures, on annonça le roi. Le cardinal fut vivement impressionné de sa venue, car, au point où il en était avec sa majesté, cette visite avait l'air d'une réconciliation au lit de mort. Lorsque Richelieu vit le roi s'approcher de son lit, il fit un effort et se souleva. « Sire, lui dit-il, je vois bien qu'il me faut partir et prendre congé de votre majesté, mais au moins je meurs avec la satisfaction de ne l'avoir jamais desservi, de laisser son état florissant et tous ses ennemis abattus. En reconnaissance de mes services passés, je supplie votre majesté d'avoir soin de mes parents. Je laisse après moi plusieurs personnes fort capables et bien instruites des affaires. Ce sont messieurs Desnoyers, de Chavigny et le cardinal Mazarin. Soyez tranquille, monsieur le cardinal, dit le roi. Vos recommandations me seront sacrées, quoique j'espère n'avoir point encore de sitôt à y faire droit. Puis, comme on apportait au malade une tasse de bouillon, le roi la prit des mains du valet et la présenta lui-même à son ministre. Richelieu salua le roi, vida la tasse à moitié et la remit au valet. Alors le roi, ayant vu tout ce qu'il voulait voir, « Monsieur le cardinal, dit-il, j'aurai plaisir à rester plus longtemps avec vous, mais en prolongeant ma visite, je craindrai de vous fatiguer. Je vous quitterai donc en vous souhaitant meilleure santé. » Et sur ce, il se leva et sortit. En sortant, il était si joyeux de voir que le cardinal en avait tout juste pour 24 heures qu'il ne put s'empêcher de rire aux éclats, bien qu'il fût suivi du maréchal de Brézé et du comte d'Harcourt, deux des meilleurs amis du cardinal. Lorsque le comte d'Harcourt revint de conduire le roi, le cardinal, qui avait dû entendre les rires de sa majesté et que ces rires avaient sans doute éclairé sur sa situation, le cardinal tendit la main au comte et lui dit « Ah, monsieur d'Harcourt, vous allez perdre en moi un bien bon ami !» Le comte avait l'intention de rassurer le cardinal sur son état, mais l'émotion fut la plus forte. Au premier mot qu'il essaya de prononcer, il éclata en sanglots. Richelieu, le laissant à ses larmes, se tourna vers madame d'Aiguillon. « Ma nièce, lui dit-il, je veux qu'après ma mort, vous fassiez... » Mais ce qu'il voulait recommander à sa nièce ne devait probablement pas être connu des étrangers qui étaient là, car il baissa tout à coup la voix et madame d'Aiguillon seule put entendre ce que son oncle lui disait. Elle se leva et sortit en pleurant. Alors le cardinal appela les deux médecins qui se trouvaient dans la chambre. « Messieurs, leur dit-il, je suis très fermement résolu à la mort. Dites-moi donc, je vous prie, le temps qu'il me reste à vivre. » Les médecins se regardèrent. Ni l'un ni l'autre n'osa prendre la parole. « Messieurs, insista le moribond, je vous en prie. » « Monseigneur, répondit un des médecins, Dieu, qui vous voit si nécessaire au bonheur de la France, fera un coup de sa main pour vous conserver la vie. »« C'est bien, murmura le cardinal, qu'on fasse venir Chicot. » Chicot était médecin particulier du roi. Richelieu avait la plus grande confiance en lui, et cette confiance, Chicot la méritait, car c'était un homme très savant. « Ah, Chicot, mon ami, venez !» dit le cardinal dès qu'il l'aperçut. « Je vous demande, non pas comme un médecin, mais comme un frère, de me dire combien il me reste de temps à vivre. »« Vous me faites venir pour cela, monseigneur ?» demanda Chicot. « Oui, car je n'ai confiance qu'en vous seul. » « Alors vous m'excuserez si je vous dis toute la vérité ?»« Je vous en serai reconnaissant. » Chicot lui fit tirer la langue et lui tâta le pouls. « Monseigneur, dit-il en laissant retomber la main du malade, dans 24 heures, vous serez mort ou guéri. »« À la bonne heure, dit Richelieu, voilà qui est parlé. » Et remerciant Chicot, il lui fit signe qu'il désirait rester seul. Sur le soir, il y eut un redoublement de fièvre et le cardinal fut encore saigné deux fois. À minuit, il fit demander le viatique. Dès la veille, le curé de Saint-Eustache avait été averti. Au premier désir de son éminence, il fut donc à son chevet. En entrant, le prêtre avait déposé l'hostie sur une table préparée à cette intention. Le cardinal se tourna vers l'hostie. « Voilà mon juge, dit-il. « Celui qui me jugera bientôt. Je le prie de bon cœur pour qu'il me condamne si j'ai jamais eu dans le cœur autre chose que le bien de la religion et de l'État. » Puis il communia. À 3 heures après minuit, il reçut l'extrême onction. Alors il avait abjuré jusqu'à l'apparence de cet orgueil qui avait été le mobile de toute sa vie. « Mon pasteur, dit-il au curé, parlez-moi comme un grand pécheur et traitez-moi comme le plus chétif de votre paroisse. » Le curé lui ordonna de réciter le Paternoster et le Credo, ce que fit le cardinal avec beaucoup d'onction, mais d'une voix si faible qu'on attendait à chaque instant son dernier soupir. Madame d'Aiguillon était hors d'elle-même. Elle ne put supporter plus longtemps le spectacle de l'agonie de son oncle. Elle rentra chez elle, éclatant en sanglots, et il fallut la saigner. Le lendemain, les médecins déclarèrent qu'ils ne pouvaient plus rien pour le mourant, de sorte que, selon l'habitude, on l'abandonna aux empiriques. À 11 heures du matin, il était si mal que le bruit de sa mort se répandit. Alors se présenta un charlatan de Troyes en Champagne, qui dit se nommer Lefèvre, et demanda de faire une tentative pour guérir le moribond. Introduit près du cardinal, il lui fit prendre une pilule de sa composition. Quelques instants après, un mieux sensible se manifesta. Vers 4 heures du soir, le roi se rendit au palais cardinal, espérant trouver son ministre mort. Il apprit, avec un grand désappointement, qu'une amélioration inespérée s'était produite dans son état. Il entra pour en juger par ses yeux. En effet, le cardinal semblait revenir à la vie. Sa Majesté resta 1 heure environ près de lui et sortit fort triste. Le mieux était sensible. La nuit, comparativement aux précédentes, fut plutôt bonne que mauvaise. La fièvre avait baissé au point que le lendemain matin, tout le monde croyait le cardinal en convalescence. Vers 8 heures, il prit une médecine, laquelle parut le soulager beaucoup et augmenta les espérances de ceux qui l'entouraient. Lui seul ne se laissa point abuser par ce retour apparent à un état meilleur. Car un gentilhomme étant venu, dans la journée, lui demander de la part de la reine comment il se trouvait. « Mal, monsieur, répondit-il, et dites à sa majesté que si, dans le cours de sa vie, elle a cru avoir quelque grief contre moi, je la prie bien humblement de me les pardonner. » Le gentilhomme se retira. À peine la porte se fut-elle refermée derrière lui, que le cardinal se sentit comme frappé à mort. Alors, se tournant vers Madame d'Aiguillon, « Ma nièce, dit-il, je me sens bien mal, je vais mourir. Éloignez-vous, je vous prie, votre douleur m'attendrit trop. N'ayez pas ce déplaisir de me voir rendre l'âme. » Madame d'Aiguillon essaya de rester, mais le cardinal lui fit tout à la fois un geste si tendre et si suppliant qu'elle se retira sans insister davantage. Le cardinal la suivit des yeux. Mais à peine eut-elle disparu qu'il fut pris d'un éblouissement, battit l'air de ses bras, puis, laissant retomber sa tête sur l'oreiller, rendit le dernier soupir. Il avait 58 ans. Cette fois, il était bien trépassé. La mort de sa main puissante avait enfin soulevé la montagne qui pesait sur la poitrine du roi. De même que, le cardinal Dubois mort, le régent écrivait à Nocé « Morte la bête, mort le venin », de même, le cardinal de Richelieu mort, Louis XIII écrivit à Tréville, à Désessart, à La Salle, à Taillade de revenir, fit sortir de la Bastille Bassompierre le maréchal de Vitry et le comte de Cramaille, et ordonna que les restes de sa mère fussent ramenés à Paris. La pauvre femme était morte, comme nous l'avons dit, dans la maison de son peintre Rubens, sans autre soin que ceux d'une vieille gouvernante, sans autre argent que celui qu'elle tenait de la pitié de l'électeur. Elle avait demandé dans son testament que ses restes fussent rapportés à Saint-Denis. Mais la haine du cardinal était une haine tenace qui s'attachait aux morts comme aux vivants, et pour ne pas désobliger son éminence, le roi avait laissé pourrir le corps de sa mère dans la chambre où elle était morte. Un gentilhomme fut envoyé pour recueillir et ramener ses pauvres restes qui réclamaient leur place dans le tombeau des rois. Un service solennel fut célébré à Cologne. Puis le corbillard se mit en route pour la France. Au bout de 20 jours de marche, le cercueil entrait à Saint-Denis. Dans ce moment, on parlait d'une campagne à la cour, mais pour parler de quelque chose, car en voyant le roi, personne n'y croyait. On eût dit, tant il changeait rapidement et inclinait d'une façon visible vers la tombe, que de dessous terre, le cardinal la tirait à lui. Esclave de cet homme pendant sa vie, il lui obéissait encore après sa mort. Vers la fin de février, le roi tomba sérieusement malade. Par malheur, le fameux journal de son médecin Guérois s'arrête à 1626, de sorte que l'on a peu de détails sur cette maladie. Aux symptômes rapportés, on peut juger que c'était une gastro-entérite. Dans les premiers jours d'avril, il parut se rétablir. Le 2, Après un mois de souffrance, se trouvant mieux, il se leva et se mit à peindre des caricatures, ce qui fut une des dernières distractions de sa vie. Le 3, il se leva comme la veille et voulut faire un tour dans la galerie. Souvret, son premier gentilhomme, et Charros, son second capitaine des gardes, le soutenaient par-dessous les bras et l'aidaient à marcher, tandis que son valet de chambre Dubois suivait, portant un siège sur lequel, de 10 pas en 10 pas, le roi s'asseyait. Ce fut sa dernière promenade. Il se leva bien encore quelquefois, se traînant de son lit à son fauteuil et de son fauteuil à la fenêtre, mais il ne s'habilla plus et alla s'affaiblissant jusqu'au dimanche 19 avril. Le matin de ce jour, après avoir passé une mauvaise nuit, « Messieurs, dit-il à ceux qui l'entouraient, je me sens tout à fait mal et vois mes forces qui diminuent. Cette nuit, j'ai fait une prière à Dieu. » Les assistants attendaient respectueusement que Sa Majesté dît quelle prière elle avait faite. « J'ai recommandé au Seigneur, reprit Louis XIII, que si c'était sa volonté de disposer de moi, il daignât abréger mes souffrances. » Puis, s'adressant à son médecin Bouvard, que nous avons vu au chevet du cardinal, « Bouvard, lui dit-il, vous savez qu'il y a longtemps que j'ai mauvaise idée de cette maladie. « Dites-moi votre opinion bien sincère sur mon état. »« Sire, balbutia Bouvard, plusieurs fois déjà je vous ai fait cette question, mais vous n'avez pas voulu me répondre. J'en ai auguré que mon mal était sans remède, j'en ai auguré qu'il me fallait mourir, et ce matin j'ai demandé Monsieur de Meaux, mon aumônier. » « Dans quel but, sire ? » demanda Bouvard. « Je désire me confesser, répondit Louis XIII, et recevoir les sacrements. » Il espérait que Bouvard allait se récrier, dire que rien ne pressait, mais Bouvard se tut. Le roi comprit, poussa un soupir et fit signe à ceux qui étaient là de se retirer. Vers 2 heures, on l'étendit sur une chaise longue, auprès de la fenêtre, afin qu'il pût, suivant son désir, voir de là sa dernière maison. Or, sa dernière maison, c'était l'église de Saint-Denis, dont on apercevait le clocher des fenêtres du château neuf de Saint-Germain. Le lundi 20 avril, le roi déclara la reine régente du royaume. La nuit fut mauvaise. Le 21 avril au matin, comme plusieurs gentilshommes étaient venus demander des nouvelles de l'auguste malade, Dubois, son valet de chambre, tira les rideaux du lit pour l'enfermer derrière et pouvoir le changer de linge. Alors le roi se regarda. « Ah, Jésus, dit-il, que je suis maigre !» Et, passant son bras à travers les rideaux, « Pontife, dit-il, voilà cependant la main qui a tenu 32 ans le sceptre. Voilà cependant le bras d'un roi de France. Ne dirait-on pas la main et le bras de la mort même ?» Le dauphin n'était pas encore baptisé. Le roi voulut que cette cérémonie s'accomplît immédiatement. Il décida que l'enfant royal se nommerait Louis et qu'il aurait pour parrain le cardinal de Mazarin et pour marraine Madame la princesse Charlotte Marguerite de Montmorency. La princesse Charlotte avait été, on se le rappelle, la dernière passion de Henri IV et était la mère du grand Condé, né à la Bastille et commandant à cette heure un corps des armées du roi. L'enfant fut baptisé dans la chapelle du château de Saint-Germain. Il portait un costume magnifique que lui avait envoyé le pape Urbain VIII. Après la cérémonie, on le ramena dans la chambre de son père. Le roi le fit mettre sur son lit. « Comment t'appelles-tu » lui demanda-t-il. « Louis XIV !» répondit l'enfant. « pas encore, » dit Louis XIII, « mais prie Dieu que ce soit bientôt. » Le lendemain 22, l'état du roi alla empirant. Les médecins lui déclarèrent que, s'il voulait communier, il était temps qu'il y songeât. On avertit la reine afin qu'elle amenât ses 2 enfants et qu'ils reçussent la bénédiction de leur père. La communion accomplie, « Croyez-vous que ce soit pour la nuit prochaine, Bouvard ?» demanda le roi, se tournant vers son médecin. « Sire, répondit Bouvard, à moins d'accidents imprévus, ma conviction est que votre majesté n'est pas si près de la mort qu'elle l'imagine. » « Dieu est le maître, » dit le roi avec un signe de résignation. Le lendemain, il reçut l'extrême-onction. Comme le prêtre venait de sortir, un de ces beaux rayons de soleil qui annoncent le printemps entra dans la chambre du mourant. Par mégarde, M. de Ponty se plaça entre le roi et ce rayon de soleil. « Hé, Pontis, lui dit Louis XIII, ne m'ôte donc pas ce que tu ne saurais me donner. » Dans la journée qui suivit, le roi se trouva mieux, à tel point qu'il ordonna à Lénière, son premier valet de garde-robe, de prendre son luth et de l'accompagner. Puis il se mit à chanter, avec trois ou quatre gentilshommes qui étaient là, des airs qu'il avait composés sur des paraphrases de David par l'évêque de Vence. Le bruit de toute cette musique se répandit dans les corridors. On prévint la reine que le roi chantait. Elle accourut et complimenta sa majesté qui se montrait en si bonne disposition. Quelques jours se passèrent dans des alternatives de bien et de mal. Mais le 6 mai, le roi retomba plus bas qu'il n'avait jamais été. Enfin, il se sentit si faible qu'il dit à Chicot « Quand donc me donnera-t-on cette bonne nouvelle qu'il me faut partir pour aller à Dieu ?» Le 8, la maladie empira encore. Le 9, le roi tomba dans un tel assoupissement que les médecins s'en inquiétèrent et dirent qu'il fallait à tout prix le réveiller. Alors le père Dinet, son confesseur, s'approcha de son oreille et par trois fois cria « Sire, que votre majesté se réveille s'il lui plaît. Il y a longtemps qu'elle n'a pris aucun aliment et l'on craint que ce sommeil ne l'affaiblisse. » À la troisième fois, le malade se réveilla. « Oui, je vous entends, mon père, dit-il, et je ne vous en veux pas de me réveiller, mais j'en veux à tous ceux qui, sachant que je ne dors pas la nuit, me réveillent maintenant que j'ai un peu de repos. » Le lendemain 10, il était plus mal encore et si faible qu'on eût dit à chaque instant qu'il allait passer. On le tourmenta pour lui faire prendre un peu de gelée fondue. « Eh, messieurs, dit-il avec un léger mouvement d'impatience, faites-moi donc la grâce de me laisser mourir en paix. » Et il se rendormit. Pendant son sommeil, on fit entrer le dauphin. Les rideaux du lit étaient ouverts. Les traits du roi commençaient à s'altérer. Le jeune prince s'approcha du lit. « Monseigneur, lui dit le valet de chambre Dubois, regardez bien comme le roi dort, afin qu'il vous souvienne de votre père quand vous serez grand. » L'enfant regarda le mourant avec terreur. « Avez-vous bien vu le roi ? Demanda Dubois. « Et vous le rappellerez-vous ? » « Oui, répondit l'enfant. Il a la bouche ouverte et les yeux tout tournés. » Vers 6 heures, le roi s'éveilla en sursaut. Il vit Monsieur le prince Henri de Bourbon qui se tenait dans la ruelle de son lit et le reconnut. « Oh, monsieur, lui dit-il, que je viens de faire un beau rêve !»« Plaît-il à votre majesté de nous le raconter ?» demanda le prince. « Je rêvais que monsieur le duc d'Enghien, votre fils, en était venu aux mains avec l'ennemi, et qu'après un rude combat, la victoire lui était demeurée. » C'était un rêve prophétique. À 10 jours de là, le duc d'Enghien remportait la victoire de Rocroi. Le 11, l'état du roi fut désespéré. Toute la journée, il se plaignit. On voulut en vain lui faire prendre quelque chose, il ne peut rien avaler. Le 13, comme on cherchait à lui faire boire quelques gorgées de petit lait, « Ne me pressez pas, dit-il. Si vous me forcez à faire le moindre mouvement, je sens que je vais mourir. » Le jeudi 14, il appela ses médecins. « Messieurs, dit-il, ne croyez-vous pas que je puisse aller jusqu'à demain ?» Et comme ils se regardaient entre eux, « Faites ce que vous pourrez pour cela, reprit-il. Le vendredi m'a toujours été un jour heureux. J'ai triomphé de mes ennemis et gagné mes batailles le vendredi. Je suis convaincu que je ferai une meilleure mort si je mourais le jour où expira notre Seigneur. » « Sire, » dirent les médecins, « nous ferons ce que nous pourrons, mais nous ne croyons pas que vous alliez jusqu'à demain. »
« Eh bien, soit, dit le roi, je n'en louerai pas moins Dieu. Faites venir la reine. »
On fit venir la reine. Le moribond l'embrassa tendrement, lui dit une foule de choses qu'elle seule put entendre. Puis il embrassa le dauphin, puis son frère, le duc d'Orléans. Après quoi, les évêques de Meaux et de Lisieux et les pères Ventadour, Denis et Vincent entrèrent dans la ruelle de son lit, qu'ils ne quittèrent plus. Dans un moment, le roi appela encore Bouvard.
« Tâtez-moi, lui dit-il. »
Le médecin obéit.
« Eh bien, que pensez-vous ? »
« Sire, mon opinion est que Dieu vous délivrera bientôt. Je ne sens plus votre pouls. » Le mourant leva les yeux au ciel.
« Mon Dieu, dit-il, recevez-moi dans votre miséricorde. »
Puis, se tournant vers l'évêque de Meaux,
« Vous verrez bien, n'est-ce pas, mon père, dit-il, quand il faudra lire les prières des agonisants. Vous les trouverez facilement, je les ai marquées d'avance. »
5 minutes après, il entrait dans l'agonie et Monseigneur de Meaux lisait les prières. À 1 heure, le roi ne parlait plus et n'entendait plus. Peu à peu, les esprits de la vie semblaient se retirer de lui, indiquant leurs adieux par des frissonnements et leur départ par l'immobilité. Toutes les parties du corps semblaient mourir les unes après les autres. Ce furent d'abord les pieds, puis les jambes, puis les bras. Enfin, à 2h15, Louis XIII rendit le dernier soupir, après un règne de 33 ans, moins 1 heure. C'était le 14 mai 1643, jour de l'Ascension.